Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, je m'appelle Marina Caillet, je travaille à l'Institut Pasteur et aujourd'hui je vais vous parler des microbes. Dès que j'aurai mon diaporama. Donc pour vous parler des microbes, je pourrais commencer par parler un petit peu de Robert Koch ou alors de Dimitri Ivanovski. On pourrait aussi parler de Francis Roux, pourquoi pas de Joseph Lister. On pourrait bien entendu parler de Louis Pasteur ou encore d'Alexandre Fleming. Et on pourrait aussi parler de Françoise Barré-Sinoussi aussi. Leur point commun, ce sont tous des scientifiques, des médecins, des pharmaciens, des chercheurs. Et tous ont participé au développement de la microbiologie et des grandes découvertes qui y sont associées. Le premier microscope a été inventé à la fin du XVIe siècle, comme on peut le voir tout en haut de cette frise. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, on observe les premières observations, enfin on commente les premières observations des micro-organismes. C'est ce qui va permettre à la fin du XIXe siècle de créer l'arbre du vivant que l'on peut observer ici. Quelques années après, Joseph Lister décrit la fermentation lactique. En parallèle, Louis Pasteur vaccine le petit Joseph contre la rage avec une substance qu'il appelle virus, mais sans vraiment en connaître la nature. Un siècle plus tard, qu'on peut voir tout en haut, Françoise Barré-Sinoussi à l'Institut Pasteur, en collaboration avec Luc Montagnier, décrit le virus de l'immunodéficience humaine qui est responsable du sida. Et quelques années, décennies auparavant, Alexandre Fleming découvre l'ampicilline, qui est le premier antibiotique. Le microbe, c'est un organisme microscopique, invisible à l'œil nu. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi micro-organisme. On ne peut pas le voir, mais par contre, on peut observer son activité, comme la pâte à pain qui gonfle ou encore la fièvre lorsque l'on tombe malade. C'est parce qu'ils sont très petits qu'ils sont à la limite du visible. Vous avez ici représenté les principaux microbes dont on entend le plus parler couramment dans l'actualité ou même lorsque l'on est malade. Le virus, en premier, qui est le plus petit, mesure à peu près 100 nanomètres. La bactérie est 10 fois plus grosse que le virus. Le champignon est lui-même 10 fois plus gros que la bactérie. Si on compare avec les cellules chez l'homme, le spermatozoïde mesure environ 3 micromètres. L'ovule, qui est l'équivalent du spermatozoïde chez la femme, quant à lui, mesure environ 50 micromètres. C'est la plus grosse cellule chez l'homme. Les cellules du système immunitaire, elles, mesurent entre 8 et 40 micromètres. Mais c'est toujours assez difficile de se représenter la taille d'un microbe parce que là, on reste à nouveau dans le monde de l'infiniment petit. Alors prenons un autre exemple. Ajoutons, parmi toutes les entités qu'on a ici, donc on retrouve notre virus, notre bactérie et la cellule, ajoutons la puce. La puce mesure en moyenne 1 mm, donc elle est visible à l'œil nu. Et je suis sûre que parmi vous, si certains ont des animaux, comme un chat ou un chien, vous avez déjà probablement rencontré la puce. Ajoutons aussi une personne de taille moyenne, à peu près 1,70 m. Qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à voir les microbes, à l'œil nu? Prenons l'exemple que la bactérie mesure cette fois-ci 1 cm, et non plus 1 micromètre. Elle est donc visible à l'œil nu. Ça représente à peu près cette taille-là. Eh bien, la cellule, ce serait à peu près la taille de mon poing. La puce, par contre, elle aurait bien grandi. Elle mesurait à peu près 10 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Et la personne humaine, par contre, elle aurait une taille complètement démesurée qui équivalerait à peu près à la distance entre Lorient et Nantes. Autrement dit, si les microbes étaient visibles à l'œil nu, la Terre serait peuplée par des géants. Et c'est justement parce qu'ils sont très petits qu'on ne les voit pas qu'on peut se demander où sont ces microbes. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'ils sont absolument partout. On les trouve tout autour de nous. dans l'air, mais aussi dans la terre, dans les eaux, que ce soit des rivières ou des océans, pas dans l'eau en bouteille que vous achetez au supermarché, ni dans l'eau du robinet que vous allez pouvoir prendre lorsque vous en avez besoin. Et ces microbes, ils vont aussi pouvoir nous permettre de fabriquer, enfin de produire certains aliments, comme le fromage, le yaourt, mais aussi la choucroute ou encore le vinaigre. Il faut savoir que les microbes, on en prend et on en dépose un peu partout, à chaque fois qu'on touche un objet. On en a donc partout sur nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et ces microbes, ils sont bien utiles, parce qu'ils vont nous servir à digérer, ils vont aussi nous permettre de produire pour nous des molécules qui vont être importantes pour notre santé. Ils vont aussi pouvoir communiquer avec notre cerveau, ils vont avoir un rôle protecteur et ils vont permettre de participer à l'éducation du système immunitaire. Donc les microbes, ils sont très importants. Ils sont utiles, notamment lorsqu'ils sont regroupés dans des entités que l'on appelle les microbiotes. Chez l'homme, on compte plus de 100 000 milliards de microbes associés sur l'homme ou dans l'homme. Il faut savoir que c'est autant, voire plus de cellules que peut compter le corps humain. À lui seul, le microbiote intestinal, les bactéries qu'on a dans le ventre, pèse à peu près entre 1 à 2 kilos chez l'adulte. Et ces microbiotes, ils sont vraiment spécifiques de l'endroit où vous allez les trouver. Par exemple, on ne va pas avoir les mêmes microbes dans nos oreilles et dans les intestins. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les microbes, deux rendez-vous à ne pas manquer. Le premier, lundi, à 17h30, au Salon de musique. Et deuxième rendez-vous, aussi pour une conférence du professeur Zutop sur le microbiote, à 10h30, mardi matin. Et si vraiment, à la fin de mon intervention, vous voulez ne pas attendre et savoir tout combien les microbes peuvent être vraiment vos amis, je vous invite à vous rendre sur le stand permanent qui est un petit peu plus loin, au haut, à côté de la salle Chaillol. Donc, les microbes, ils sont partout, ils sont bien utiles pour l'homme, mais parfois, ils sont pathogènes. Donc, le mot pathogène, ça vient du grec pathos, qui signifie souffrance, et génos, pour la naissance. Donc, on pourrait traduire le mot pathogène comme qui fait souffrir. Depuis toujours, les microbes, ils accompagnent l'homme dans son évolution et dans sa conquête de nouveaux territoires. Et parfois, ils sont responsables d'épidémies, voire de pandémies, lorsque le microbe pathogène est capable de circuler librement dans le monde entier. C'est ce que nous avons connu avec le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Vous avez ici représenté les principales épidémies les plus meurtrières que l'homme ait connues depuis la peste Antonine en l'an 165, tout en haut, jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces maladies aujourd'hui sont complètement oubliées, comme la peste, la variole ou encore la grippe espagnole. Mais il faut savoir qu'à leur époque, elles ont été particulièrement meurtrières. Si on s'intéresse à la science-fiction et aux microbes, eh bien, en général, ils ne sont pas souvent utiles pour l'homme. Dans Le Fléau, on parle d'un microbe grippal sorti d'un laboratoire qui est très contagieux, qui est très, très pathogène et qui va décimer toute la population. Dans Soleil froid, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où un virus a décimé toute la population. Dans Rage, le virus infecte que les enfants et les oblige ensuite à attaquer les adultes. Si on regarde du côté du cinéma, eh bien, c'est toujours un peu la même histoire. Donc on peut prendre les exemples des films comme Alerte, Contagion, L'Armée des Douze Singes ou encore 28 jours plus tard. On a toujours affaire à un virus très pathogène, très contagieux, qui s'attaque aux hommes, parfois même va les transformer en zombies. Mais il faut savoir que les virus ne sont pas les seuls microbes pathogènes pour l'homme. En fait, on distingue quatre classes de microbes pathogènes chez l'homme. Donc, bien entendu, il y a les virus biologiques, pour les différencier des virus informatiques. On a les bactéries, mais on a aussi les champignons et enfin les parasites. Les microbes pathogènes, Ils sont responsables de maladies infectieuses chez l'homme. Donc, dans le cas des virus et des maladies liées à des virus, on peut avoir par exemple la rage ou encore la grippe, la varicelle, la rougeole, ou bien entendu la Covid-19. Des maladies comme la tuberculose ou encore la coqueluche ou le tétanos, elles sont causées par des bactéries. Lorsqu'il est pathogène, le champignon va être responsable de candidose. Et enfin, des maladies comme la gale ou le paludisme, elles sont causées par des parasites. Vous le savez probablement, mais pour les maladies liées à des bactéries, il existe des médicaments. Ce sont les antibiotiques. Lorsque l'on tombe malade et que le médecin nous prescrit... D'abord que le médecin nous ausculte et après son diagnostic établit que la maladie est liée à une bactérie, que ce soit en ville ou à l'hôpital, il va nous prescrire des antibiotiques. Dans l'organisme, l'antibiotique, il va être plus ou moins spécifique de la bactérie pathogène. Ça veut dire qu'il va s'attaquer à la bactérie qui nous rend malade, mais il va aussi s'attaquer aux bactéries qui ressemblent beaucoup à cette bactérie et parfois même juste un petit peu. C'est la raison pour laquelle les antibiotiques tuent aussi parfois des bonnes bactéries. Ensuite, il est dégradé par l'organisme. Parfois, il n'est pas très bien dégradé. C'est ce qui lui permet ensuite de passer dans le milieu environnemental à travers les excréments et de se retrouver libre dans les eaux et les sols. La bactérie, elle, comme on peut le voir ici, lorsqu'elle est capable de se multiplier et de survivre en présence de l'antibiotique, elle est dite résistante. Et comme l'antibiotique, elle est capable de quitter le corps pour rejoindre l'environnement à travers les excréments. Tout ça pour dire que lorsque l'on tombe malade, il est vraiment important de s'assurer avant la prescription des antibiotiques que la maladie est bien liée à une bactérie. Parce que sinon, plus on va avoir d'antibiotiques libérés dans le milieu, que ce soit dans les eaux ou dans les sols, et plus on risque d'avoir l'apparition de bactéries résistantes. Parce que eux, les virus, ils sont totalement insensibles aux antibiotiques. En effet, il existe peu de médicaments contre les virus. Ils sont souvent chers à produire. Et ils peuvent être toxiques lorsqu'ils sont consommés sur de longues périodes. Mais la sensibilité aux antibiotiques n'est pas du tout la principale différence qui peut exister entre une bactérie et un virus.
C'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? Très simple, virus et bactéries sont de tout petits organismes, mais les virus sont généralement bien plus petits que les bactéries. La bactérie, comme vous voyez, est une cellule sans noyau, avec une paroi et même parfois une sorte de petite queue, la flagelle, qui lui permet de mieux se déplacer. Pour se reproduire, comme toutes les cellules, la bactérie se divise, comme ça, et ça peut aller très vite. Le virus, lui, est une petite qui ne peut pas se reproduire tout seul. Il a besoin d'un autre organisme, une cellule à laquelle il va s'accrocher et dans laquelle il va entrer. Une fois dedans, il va se servir de ce qu'il y a là pour fabriquer de nouveaux petits virus qui vont aller chercher d'autres cellules pour se reproduire. Mais la cellule, elle va mourir.
Donc, le virus, lui, il va avoir besoin de pénétrer une cellule, donc de l'infecter, pour pouvoir se reproduire et se multiplier. La bactérie, elle n'a pas besoin de la cellule. Elle va pouvoir se reproduire partout où elle trouve les bonnes conditions pour pouvoir survivre. C'est en partie parce que le virus n'est pas capable de se reproduire seul et qu'il a besoin pour ça de l'aide d'un autre organisme vivant qu'il est classé comme non vivant. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour lutter contre les maladies infectieuses liées à une bactérie ou à un virus, le meilleur des choses, ça reste la prévention. Et la prévention, ça passe par l'hygiène, les gestes barrières et la vaccination, lorsqu'elle existe. Pourquoi ? Parce que la vaccination prépare le système immunitaire à combattre les agents pathogènes. L'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes qui existent chez un organisme, donc vous, mais moi aussi, qui vont permettre justement à cet organisme de se défendre contre les éléments extérieurs, et notamment contre les agents pathogènes. Et ça, grâce au système immunitaire.
Cher professeur, je suis Guitou, le microbe. Je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi.
Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverai à passer la barrière de la salive déguisée en microbe, je ne serai pas tiré d'affaire.
Qui va là ?
Le checkpoint des amygdales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps.
Allez les gars, pas de quartier !
Ouais ! Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pu.
Bien joué, les gars. Sacré baston.
Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Sa technique favorite, transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce ver, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les éosinophiles.
Veuillez nous suivre, s'il vous plaît.
Et enfin, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse, et puis, une fois prêts, ils commandent les troupes lors des maladies.
Hydrophiles en renfort sur le flanc gauche!
Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient.
Oh, je me souviens encore, cette sacrée varicelle, c'était une vraie boucherie.
Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace.
On t'expulse demain, par voie nasale si le juge est sympa. Sinon, par voie rectale.
Donc on l'a vu, le système immunitaire, il est très très bien organisé et il a la chance aussi d'avoir des sentinelles absolument partout dans le corps. Ces sentinelles, elles vont vraiment avoir un rôle très important parce qu'elles vont permettre justement, dès le contact avec un microbe pathogène ou même un objet quelconque, de pouvoir alerter le système immunitaire et la grande armée qui s'y trouve. Et ça, c'est important parce qu'il existe plusieurs portes d'entrée pour les microbes chez l'homme. Et ce, parce qu'il existe plusieurs modes de transmission. Donc, l'un des principaux modes de transmission qu'on peut avoir, c'est la voie aérienne. C'est justement lorsque l'on parle ou lorsque l'on respire. La grippe fait partie justement des virus qui se transmettent par voie aérienne. Il existe aussi la voie orale. Donc, cette fois-ci, c'est lorsque, par exemple, on va manger de la nourriture contaminée ou lorsque l'on va porter à sa bouche un objet contaminé, comme un stylo, par exemple. Et ça, ça rejoint la voie de contact. La voie de contact, c'est lorsque l'agent pathogène se transmet par l'intermédiaire d'un objet contaminé, mais aussi d'une personne. Lorsque la transmission se fait par le contact avec un animal, qu'il soit domestique ou sauvage, on parle alors de zoonose. Les zoonoses ont commencé avec la sédentarisation de l'homme et la domestication des premiers animaux. En évoluant et en ayant de plus en plus des transports développés, l'homme a conquis de plus en plus de territoires et s'est retrouvé dans des endroits où potentiellement il n'était pas obligé de se retrouver, ou en tout cas des territoires qui étaient très peut-être très bien sans lui. Tout ça pour dire qu'au fur et à mesure du temps, les zoonoses se sont multipliées et elles ont été surtout de plus en plus vite.
C'est une menace constante pour la santé des humains, les zoonoses. Ces maladies infectieuses transmissibles de l'animal à l'homme et inversement sont causées par des bactéries, des virus, des champignons ou des prions. Les agents pathogènes sont transmis par contact direct avec des animaux ou par l'ingestion d'aliments d'origine animale tels que le lait, la viande et les œufs. Croissance rapide de la population, mobilité grandissante, mauvaises conditions d'élevage, surexploitation animale et réchauffement climatique favorisent la propagation et la recrudescence des zoonoses à travers le monde. L'être humain pénètre dans des régions de plus en plus reculées et se retrouve en contact avec des agents pathogènes auxquels il n'aurait jamais dû avoir affaire. Certaines infections sont problématiques à plusieurs égards. Elles peuvent non seulement se transmettre de l'animal à l'homme, mais aussi d'un être humain à un autre. Et le risque d'infection est d'autant plus élevé lorsqu'un grand nombre d'animaux ou de personnes est rassemblé au même endroit.
Il faut savoir que 60% des agents pathogènes chez l'homme sont d'origine animale et qu'on estime à peu près à 75% que des maladies animales émergentes peuvent se transmettre chez l'homme. Et c'est justement parce que l'homme a toujours vécu avec les microbes et inversement que les microbes ont appris à voyager. Si on prend l'exemple de la peste noire, elle est originaire d'Asie au XIVe siècle et a rejoint l'Europe à cause des rats et des puces infectées. Il y a eu plus de 200 millions de morts en Europe. Un autre exemple, venu des États-Unis avec le bateau, la grippe espagnole est arrivée en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale et a fait des millions de morts. À cette époque, on peut voir que les moyens de transport restaient quand même encore limités. Le virus Zika, originaire d'Afrique, est décrit pour la première fois au milieu du XXe siècle. En quelques décennies, il contamine les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Asie. Un autre exemple, le virus responsable du sida, est lui aussi originaire d'Afrique, découvert aussi dans les milieux du XXe siècle. Il migre rapidement aux États-Unis avant de contaminer l'ensemble des continents. Dernier exemple, et plus actuel, le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, est apparu en Asie à la fin 2019 et en moins d'un an a réussi à se retrouver sur l'ensemble des continents. Donc oui, les virus voyagent grâce à l'homme et les pathogènes d'une manière générale. Et donc comme on peut le voir ici, ils vont de plus en plus vite en fonction de l'évolution de notre monde et de l'évolution des transports. Donc, parce qu'ils sont très petits, ils sont à la limite du visible, parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais le monde des microbes est bien présent. Et il est tout autour de nous, et nous vivons directement avec ces microbes. Et c'est justement parce que nous vivons avec eux qu'il est important de bien les connaître, pour apprendre justement à profiter de tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter lorsqu'ils sont utiles pour l'homme, ou au contraire, apprendre à mieux se défendre contre eux et surtout adapter le traitement, prendre le plus approprié en fonction du microbe qui est concerné. Donc j'en ai terminé avec les microbes. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir, vous disiez pour le traitement justement de maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes, de bien distinguer entre les deux, vu que les antibiotiques ne fonctionnent que sur les bactéries. On va dire par un peu de recul, on va dire au niveau de la médecine générale, je sais que par exemple il y a des tests rapides qui existent a priori pour distinguer les bactéries des virus. Et bon, j'ai pas eu 50 000 médecins généralistes, mais j'en ai jamais vu un seul proposer un test rapide, par exemple, quand on a des symptômes grippaux ou autres, genre le nez qui coule et tout, pour voir justement si ben, c'était une origine bactérienne ou pas. Et à la place, savoir plutôt, ben, allez hop, on va vous faire une prise de sang, ou au pire, ben, allez hop, on vous donne des antibiotiques. Donc, par rapport à votre recul et les médecins ou autres que vous avez rencontrés, pourquoi, entre guillemets, ces tests-là ne sont pas faits ou oubliés, enfin, je ne sais pas comment le dire, ou est-ce que c'est une question de coût pour vous ou d'autres raisons, ou pourquoi ils ne sont pas plus déployés, quoi, enfin, à moins que moi...
La question de coût, je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, ils peuvent directement faire la demande des fameux tests, hein, justement, c'est notamment pour identifier les bactéries de type streptocoque. Et de ce que, alors, c'est assez amusant parce que, en fait, j'ai eu une angine il y a à peu près 6 mois et j'ai été très étonnée que le médecin que j'ai consulté me fasse tout de suite le test. C'était la première fois qu'on me faisait ça. Mais c'était une médecin très jeune qui ouvrait juste son cabinet, donc elle sortait de l'école. Je pense que pour les médecins qui sont plus installés, c'est pas encore, commun. Mais ça arrive. Et par contre, ils ont quand même aussi l'expérience. Parce que d'une manière générale, on a aussi les signes cliniques qui vont permettre de différencier tout de suite si c'est une angine virale ou une angine bactérienne. Parce que bien souvent, les angines bactériennes provoquent une réponse immunitaire avec du pus. Donc ça va. Les symptômes physiques sont quand même différents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, les médecins peuvent aussi prescrire les antibiotiques pour prévenir la surinfection bactérienne. C'est pas toujours recommandé et ça se fait de moins en moins avec la nouvelle génération de médecins.
Un ferment, est-ce que c'est un microbe ? Non, oui.
Alors, excuse-moi, mais je n'ai pas très très bien entendu en fait, au départ.
Un ferment, c'est-il un microbe ?
Un ferment. Un ferment ?
La levure.
Ah, la levure. Les ferments lactiques, oui, ça fait partie des microbes, mais ce sont des bons microbes. C'est ceux qui, justement, vont nous permettre de fabriquer le yaourt, le fromage, et ils vont être très importants pour notre santé.
Okay. Dans l'une des vidéos, il parlait des prions. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, très bonne question. J'avais espéré ne pas avoir cette question. Alors, le prion, c'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est pas un champignon ni un parasite, c'est une protéine. Donc les protéines sont un des constituants de tous les organismes vivants. Et le cas du prion est une protéine qui, du jour au lendemain, en fait, adopte une forme qui la rend pathogène.
Vous avez parlé de tout ce qui est voyage, qui nous a permis de rencontrer des nouvelles formes de vie. Comment se positionne l'Institut Pasteur, grande institution française, par rapport à la prospection spatiale, la NASA qui est en train de prévoir le prochain vol sur Mars? Il est évident qu'à un moment donné, surtout si on va sur des nouveaux continents où il y a de l'eau, on en est pratiquement sûr, il y aura des formes de vie. Comment justement, avec toute l'expérience qu'on a pu accumuler jusqu'ici, anticiper ce que l'on va rencontrer ? Parce que tout ce qui est invisible, on ne s'en rendra pas compte. Et si on revient sur Terre, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le domaine de la science-fiction. Il y a pas mal de séries à la télé actuellement qui traitent de ce sujet. En ce qui concerne directement l'Institut Pasteur, je ne pourrais pas parler au nom de l'Institut Pasteur parce que je ne suis pas du tout au courant de savoir s'il y a des interactions avec les gens en astronomie. Ça, je suis très honnête, j'avoue que je ne sais pas. On pourrait se poser la question, compte tenu que l'Institut Pasteur, même s'il n'y a pas d'interaction à l'heure actuelle, on est quand même reconnu aussi bien au niveau national qu'international pour justement l'étude des micro-organismes. S'il devait y avoir un quelconque microbe pathogène ou non venu tout droit de Mars, je pense que l'Institut Pasteur serait mis en contact et rapidement au courant.
Je voulais juste rebondir sur l'idée. La plupart des pathogènes, alors là on parle des pathogènes, hein, pas que les microbes, des pathogènes ont coévolué avec leur hôte. Donc il y a quand même peu de chances que quelque chose qui a évolué à des... Enfin, une grande distance de l'humain ou de tout animal qu'on connaisse, puisse être transmis facilement à l'homme. Enfin, faut pas avoir peur de ce qu'on va rencontrer. Il y en aura sûrement, il y aura peut-être d'autres formes de vie, mais l'interaction avec l'humain ou l'animal sera quand même peu... Il y a une spécificité quand même, pathogène hôte.
Est-ce que les microbes se donnent entre elles que au physique ou autre chose ?
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir la question en un peu... J'ai pas très bien compris, en fait.
Oui, bonjour. J'avais une petite question qui concerne les coûts économiques, en fait. On a vu qu'en matière de génétique, aujourd'hui, on arrive à faire des choses, on va dire, extraordinaires, mais avec énormément de recherches, une recherche très coûteuse, des traitements très coûteux. Tout ce qui concerne la lutte contre les virus et les bactéries, on a vu qu'on avait de plus en plus, comme l'homme s'étend partout, de plus en plus vite, de plus en plus de contamination, avec de plus en plus de virus qui apparaissent. Est-ce que sur cette recherche-là, on est plutôt sur quelque chose de classique ? Qui ne mobilisent pas forcément des moyens extraordinaires avec demain des traitements qui vont rester, on va dire, dans des coûts raisonnables pour tout le monde ? Ou est-ce qu'on a une explosion sur certains types de virus et de bactéries du coût des traitements qui fait que demain, ce sera réservable presque à un certain nombre de privilégiés ? Indépendamment du fait que déjà toute la planète n'est pas protégée. Hein, mais...
Oui, ça déjà, c'est une excellente remarque. Globalement, pour ne pas dire de bêtises, toutes les recherches qui sont faites au niveau de ces nouveaux virus émergents ne nécessitent pas des techniques de pointe ou des grosses machineries comme on peut l'avoir en médecine personnalisée. Ce n'est pas le cas. Souvent, c'est de la recherche de terrain. Parce que c'est justement dans des endroits où il n'y a pas toutes ces technologies, donc on ne peut pas... Après, ce qui va être vraiment intéressant, ça va vraiment dépendre aussi du type de pathogène qu'on va pouvoir rencontrer. Si on tombe sur un pathogène où on a déjà des vaccins qui peuvent exister, pas directement contre lui, mais au moins contre sa famille, on peut se diriger vers des vaccins à ces types, et c'est pareil au niveau des molécules chimiques qui peuvent être utilisées. Si je ne dis pas de bêtises, si on prend l'exemple de la Covid-19, la production du vaccin ARN messager, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, et c'est une nouveauté.
Pour rejoindre un peu ce que vous disiez, donc on voit apparaître de plus en plus de pathologies, hein, tous les quatre patins, dans des pestes porcines, des grippes aviaires, etc. Ça donne quand même l'impression qu'on est toujours plutôt sur une évolution de quelque chose qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il arrive ces derniers temps qu'on ait, je veux dire, entre parenthèses, de vraies nouveautés, un virus totalement inédit, quelque chose qu'on n'avait vraiment jamais vu jusqu'à présent? Ou est-ce qu'on est vraiment sur, je ne vais pas dire du recyclage, mais quelque chose de récurrent sous une nouvelle forme, en fait?
Alors, globalement, oui, les nouveaux virus émergents, ou même, on parle surtout de virus, hein, d'une manière générale, ils sont toujours dans des classes de familles de virus connues. J'ose espérer qu'on n'aura pas une nouvelle classe de famille de virus. C'est très peu probable, à mon avis.
Donc, j'ai retrouvé ce que je voulais dire.
Formidable.
Pour revenir sur les virus extraterrestres, il paraît qu'il y a un certain temps, je ne sais pas combien, mais voilà, et ben, en fait, il y avait une histoire à la télé. En gros, c'était des extraterrestres qui étaient venus sur Terre et dévastaient tout. Et c'était vraiment fait, on dirait, pour que tout le monde y croie. Voilà. Et finalement, les humains, ils ont gagné la guerre, entre guillemets, parce que les extraterrestres ont été affectés par le rhume.
Le rhume. Donc ça rappelle une série de science-fiction pour ceux qui ont pu la visionner dans les années 90, ça s'appelait V. Donc oui, effectivement, est-ce que les extraterrestres vont venir et est-ce qu'ils seront susceptibles à un pathogène qui existe chez nous? C'est complètement plausible. Alors, qu'ils soient susceptibles à un pathogène chez nous, hein, pas que les extraterrestres viennent, ça j'en suis un petit peu moins sûre. Mais en fait, si on prend un exemple beaucoup plus concret et beaucoup plus réaliste, on n'est pas tous logés à la même enseigne, en fait, pour les maladies infectieuses. Et une maladie qui, chez nous, devient un peu endémique, donc c'est-à-dire qu'on vit très bien avec, et parce qu'on a appris à évoluer avec, notre système immunitaire s'est protégé naturellement contre cette maladie, ne sera peut-être pas le cas dans une population qui n'a jamais eu de contact avec cette maladie. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure dans un schéma là, les maladies enfin, sur l'échelle de plusieurs centaines de milliers d'années qui apparaissent à un endroit du monde, qui diffusent après. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui peut être fait, tout simplement, pour essayer qu'elles limiter leur diffusion ou qu'elles ne se répandent pas de façon incontrôlée. Et deuxièmement, concernant les maladies, par exemple les zoonoses que vous avez évoquées, il y a des grandes maladies qui ont disparu. Par exemple en France, la tuberculose, la rage. Donc, là aussi, qu'est-ce qui a été fait pour que des maladies existantes qui pouvaient tuer des milliers de personnes aient disparu?
Alors, bonjour, merci d'avoir pour cette question qui est très intéressante. Alors, effectivement, déjà, d'une façon générale, on voit les maladies émergentes, on en a de plus en plus. Elles sont avant tout liées au fait qu'on va de plus en plus loin dans le monde, on voyage de plus en plus vite. Et ça permet vraiment une libre circulation des agents pathogènes de façon exponentielle. Pour les maladies comme la variole, la peste, qui ont fait des millions de morts au temps de l'Antiquité et même un peu plus tard, hein, si on prend la grippe espagnole, c'était quand même à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ça a fait plus de morts que, enfin, à la fin de la Première Guerre mondiale, et ça a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. Là, il s'agit, bon, donc déjà, à cette époque, l'hygiène n'était pas la même. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'il faut quand même aussi retenir, c'est que la prévention, c'est avant tout l'hygiène. Donc les gestes barrières aident énormément dans le cas des pathogènes qui sont en libre circulation, enfin qui se transmettent par l'air et par voie orale. Tous les ans, il y a des épidémies de gastro. Donc typiquement, la gastro, ça se transmet par voie orale, et c'est généralement parce que on est en contact avec des objets contaminés. Il y a les personnes contaminées, mais souvent aussi il y a des objets contaminés. Par exemple, les poignées de porte. C'est pour ça qu'au niveau de l'hygiène, on dit toujours qu'il est important de se laver les mains une fois qu'on a été aux toilettes. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à entre guillemets, se débarrasser de ces agents pathogènes, comme la peste, la variole. La variole est un très bon exemple, parce que c'est le seul pathogène chez l'homme qui a été éradiqué. Il n'y a plus de cas de variole depuis 1979, je crois, déclaration de l'OMS. C'est grâce à la vaccination qu'on a réussi justement à éradiquer la variole. Donc lorsque c'est possible, la vaccination, ça permet justement d'éradiquer les maladies. Maintenant, il faut que ce soit des agents pathogènes qui ne soient pas des super mutants. Si on prend l'exemple de la grippe, on a un vaccin contre la grippe tous les ans parce que le virus de la grippe est capable de muter très rapidement. Et lorsqu'il va d'une région à l'autre du monde, donc souvent c'est hémisphère sud, hémisphère nord, il va rencontrer différents organismes et à chaque fois qu'il va se reproduire, eh ben il ne se reproduit pas toujours très bien et il continue de muter. Et ça veut dire que le vaccin qui a été émis 6 mois auparavant, eh ben, il ne protège plus aussi bien 6 mois après, parce que le virus a un peu changé. Est-ce que ça répond à la question ?
Bonjour, oui, c'était justement concernant les mutations de virus. En fait, la mutation, elle va arriver par hasard ou, enfin, je me demande comment ça se passe. Est-ce qu'à un moment donné, il teste quelque chose et il dit « Ah, bah, ça, c'est bien, donc je continue » ou alors c'est vraiment le pur hasard et ça tombe comme ça et ça marche et paf.
Alors, c'est un peu les deux. Mais d'une manière générale, effectivement, les mutations, elles se font au hasard, mais il y a aussi une pression de sélection. Dans le sens où l'objectif des microbes, qu'ils soient pathogènes ou pas, c'est de survivre. Donc, ils vont s'adapter au mieux pour pouvoir survivre, et notamment à leur hôte. Lorsque c'est le cas des virus, les virus, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Donc, pour survivre, ils sont obligés en permanence de s'adapter pour pouvoir, justement. Leur objectif, ce n'est pas de tuer leur hôte, parce que sinon, ils ne peuvent pas survivre. Donc, les mutations, oui, elles se font de façon plus ou moins aléatoire, mais il y a aussi une pression de sélection qui va permettre justement à l'agent pathogène de pouvoir survivre.
Mais du coup, au bout d'un moment, bah, il y aura surtout des micro-organismes, enfin des pathogènes pas très mortels et très contagieux. Si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà.
Eh ben oui. Donc félicitations. Je suis contente parce que donc tu as bien compris. Et ça c'est le principe justement de l'adaptation et de la coévolution avec les pathogènes. C'est-à-dire que lorsqu'un nouveau pathogène arrive et qu'on ne l'a jamais rencontré et que donc notre système immunitaire est complètement démuni, c'est la première fois qu'il le voit, donc il peut pas se défendre. Une fois qu'il va fur et à mesure apprendre à vivre avec, mais ça se fait pas à l'échelle de la vie d'une personne. Hein. Ça prend plusieurs années, voire des dizaines d'années, voire des siècles. Le système immunitaire ensuite va il va apprendre à vivre avec. Et donc, d'une grippe qui va être extrêmement mortelle, on va arriver à un rhume. C'est pas vrai pour tous les pathogènes.
Sinon, je voulais dire que... Attends, comment on va y expliquer ? Récemment, j'ai entendu parler d'un parasite qui est responsable d'une maladie qu'à peu près un tiers d'entre nous a, mais c'est quasiment rien. C'est la toxoplasmose causée par la... Voilà. Et du coup, voilà, en fait, il n'y a pas plus à dire.
Alors, je sais que dans l'assistance, il y a mes amis scientifiques. Si je ne me trompe pas, la toxo, c'est un mycoplasme. Voilà, donc ça fait partie des microbes. D'une manière générale, on a appris à vivre avec la toxoplasmose, notamment les personnes qui ont des animaux domestiques, les chats. Mais je sais, et ça je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce n'est pas du tout mon domaine, que la toxoplasmose peut être dangereuse pour les femmes enceintes.
Bonjour. Deux personnes m'ont fait penser à une question par rapport aux maladies inédites et puis celles qui, on va dire, qui seraient difficiles à comprendre. Est-ce que vous, à l'Institut Pasteur, vous continuez à travailler sur des maladies comme, je pense à la suette qui est apparue on ne sait comment et qui est disparue on ne sait pas comment. Est-ce que vous avez des moyens de repérer ces choses-là à l'avenir au cas où ça revient? Et comment vous vous positionnez là-dessus par rapport à, par exemple, à la variole qui a complètement été éradiquée, mais est-ce que vous avez toujours ces études qui sont surveillées ou pas, quoi ?
Alors, je n'ai pas très bien compris, en fait, le nom de la première maladie dont vous avez parlé.
C'est la suette. C'est au travers de différentes lectures. Je me suis intéressé à une partie de l'histoire. C'est une maladie qui était apparue au Moyen-Âge et toute l'armée de je ne sais plus quel Henri est morte, en fait, à cause de cette maladie. Elle est apparue de manière assez localisée en Angleterre et en France. Et elle a disparu du jour au lendemain sans qu'on comprenne pourquoi. Alors, du jour au lendemain, ça a pris plusieurs décennies, bien sûr.
Oui, voilà.
Mais ça a été très, très localisé, très fulgurant, en fait. Et aujourd'hui, on explique qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel microbe la donne, si c'en est un. Et on ne sait pas comment elle a disparu, elle n'est jamais revenue depuis, quoi. Voilà.
Donc, je ne pourrais pas répondre sur la suette parce que je ne connaissais pas cette maladie. En revanche, en ce qui concerne par l'exemple de la variole, donc personne à Pasteur ne travaille sur la variole et personne dans le monde même normalement ne travaille sur la variole puisque le virus a été éradiqué et donc il n'y a plus de souche.
J'avais une petite question supplémentaire. Sur la partie alimentation aujourd'hui, donc on a une alimentation de plus en plus aseptisée, avec beaucoup de pasteurisation, de conservation de chaînes de froid, sous vide, etc., etc. Est-ce que tout ça nous rend plus sensibles aujourd'hui à un certain nombre de virus, de bactéries qui, il y a 30 ou 40 ans, auraient été standards, hein, dans la mesure où on n'avait pas du tout les mêmes standards d'hygiène, qui fait qu'aujourd'hui on serait plus sensible à un certain nombre de choses, je veux dire, naturellement présentes dans la nature, du fait de notre nouveau mode d'alimentation? Ou est-ce que, non, ce n'est pas spécialement le cas, en fait?
Alors déjà, merci pour la question, parce qu'on prend un peu le large, on va un petit peu plus loin dans l'étude, dans l'interaction qu'il peut y avoir entre les pathogènes et notre organisme et l'environnement. D'une manière générale, l'alimentation moderne, comme on la connaît, a tendance déjà à appauvrir notre système, enfin notre microbiote. Donc notre microbiote, si on s'en souvient, c'est les bactéries qu'on peut avoir dans les intestins qui nous veulent souvent que du bien et qui vont nous permettre de digérer correctement et qui vont aussi pouvoir produire des molécules qui vont être bénéfiques pour notre santé. Et elles ont besoin d'être nourries. Et d'une manière générale, les plats très industrialisés et très aseptisés, ça nourrit pas très très bien le microbiote. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est très très important de manger des fruits et légumes, d'essayer dans la mesure du possible d'acheter des produits bruts et de cuisiner soi-même. Et donc tout ça pour dire que oui, effectivement, il y a vraisemblablement un effet. Et ça va même beaucoup plus loin, puisqu'on le sait aujourd'hui qu'au niveau du système immunitaire, on va avoir un système beaucoup mieux préparé et beaucoup plus fort si, par exemple, on vit en contact des animaux dès notre plus jeune âge. Et c'est la même question, c'est la même raison pour laquelle on n'a pas les mêmes défenses lorsque l'on vit en ville dans un milieu extrêmement aseptisé ou alors lorsqu'on vit à la campagne. En fait, tout ça, c'est vraiment multifacteur. Je vois qu'il y en a qui ont été particulièrement intéressé par cette intervention.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les gens à la campagne, comme ils ont eu moins de chances d'avoir la Covid, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus sensibles à la Covid ?
Alors, très honnêtement, à l'échelle de la Covid, quand je vois à peu près le taux de contamination, que ce soit en ville ou à la campagne, ils ont peut-être été un peu moins en contact parce qu'il y a moins de monde et qu'il y a moins de contacts. Mais je ne dirais pas qu'ils sont plus sensibles aujourd'hui que ceux qui vivent en ville. À part celui qui vit tout seul sur un glacier en Antarctique et qui n'a vu personne depuis 3 ans, je pense qu'on est tous, à part les différences génétiques et le fait qu'on soit peut-être un peu moins en bonne santé pour diverses raisons, on est à peu près tous au même niveau aujourd'hui si on est en bonne santé face à la Covid-19.
Désolé, mais l'exercice est bon pour la santé, donc je vous fais courir. Aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus, alors toujours l'industrie, donc un certain nombre d'élevages massifs, d'élevages porcins, de grippe aviaire, où quasiment tous les 2 ou 3 ans, sauf erreur, on est obligé de procéder à des abattages massifs. Les porcs, les volailles, alors cette année, ce sont toutes les volailles, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est quand même beaucoup lié à la densification et au fait que toutes ces bestioles, sauf erreur, soient nourries de médicaments, d'antibiotiques. Est-ce que vous avez un certain nombre aujourd'hui de futures épidémies en veille ou un certain nombre de secteurs où on se dit, tiens, voilà, la prochaine épidémie animale, ce sera plutôt ça ou ça, on a ça en veille, on se dit, tiens, ça, à un moment ou à un autre, dans les années qui viennent, ça va sortir.
Alors oui, à l'Institut Pasteur, justement, il y a tout un système de réseau qui est en interaction directe avec Santé publique France pour justement surveiller tous ces pathogènes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. En fait, il faut savoir que l'Institut Pasteur, c'est aussi un réseau de 32 instituts dans le monde et qui nous permet justement de pouvoir aller un petit peu sur tous les continents et de faire de la veille sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les nouveaux... On a la première position pour dès qu'il y a un nouveau pathogène émergent. Le fait que justement, il y a ces problèmes... c'est pas ces problèmes, la production d'élevage aujourd'hui fait qu'il y a énormément, justement, d'animaux concentrés au même endroit. C'est pas ce qui... Quand dans le cas où il y a une épidémie, on a un abattage massif, il y a quand même des règles et des consignes, surtout en France, au niveau de l'élevage, qui font que, d'une manière générale, toutes les précautions sont prises en amont. Maintenant, si on parle de la grippe aviaire, on ne peut pas protéger toutes les volailles, des volailles sauvages qui vont venir d'autres continents infectées et qui vont déjecter sur les populations de la production animale en France. Donc on peut prévenir, mais on ne pourra pas l'empêcher.
Alors, juste pour compléter, c'est peut-être aussi lié au fait que par le passé, on l'étudiait pas de la même façon, on n'avait pas ces concentrations d'animaux. On a vraiment l'impression que tous les 2 ans quasiment, on a presque une extinction massive d'espèces organisées de notre côté pour réduire telle ou telle contamination. Donc, comme on l'a dit, on a eu les porcs, on a eu les hermines. Ça, c'était pas de l'élevage, mais les pauvres également. Cette année, donc, ce sont les canards qui mettaient en danger, je crois, la filière de reproduction chez nous, notamment de production des canetons ou des petites volailles. On a quand même l'impression que malgré tout, c'est de plus en plus récurrent. Est-ce que vous avez une petite idée Alors, on parlait tout à l'heure de la grippe aviaire. Il n'y a probablement pas plus de canards. Autant les humains se déplacent de plus en plus dans le monde, autant je ne pense pas que les canards le fassent. Ou alors c'est lié au réchauffement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui nous amène à cette multiplication d'épidémies d'origine animale, en fait ?
Ben, c'est une très bonne question. Alors, peut-être que c'est une erreur, mais je pense que d'une manière générale, c'est quand même aussi beaucoup lié à l'activité humaine. Donc, même si les canards ne voyagent pas sur l'ensemble du globe, il est vrai que l'activité humaine favorise l'émergence de nouveaux pathogènes et surtout permet une rapidité en termes de contamination.
Oui, je passerai le micro au jeune homme. J'ai une question rapide, en changeant un peu de registre, par rapport à la recherche de nouveaux antibiotiques, parce qu'on sait que maintenant il va y avoir des problèmes avec des bactéries résistantes. Pour vous, avec le recul que les instituts ont, est-ce que vous pensez qu'un jour, je ne sais pas combien de temps, vous perdrez la guerre entre guillemets par rapport à une bactérie parce que vous n'aurez pas réussi à trouver par exemple un antibiotique qui fera parade à une bactérie qui aurait réussi à muter X fois et,
Alors, perdre la guerre, en fait, on est déjà en guerre avec certains pathogènes où il est très, très difficile justement de pouvoir les traiter. C'est le cas notamment de certaines infections nosocomiales, donc les infections qu'on attrape à l'hôpital, où les pathogènes ont été tellement en présence des antibiotiques, et là, des antibiotiques aussi les plus coriaces, que parfois, on n'a pas de remède. Hein. Donc, pour certains pathogènes, on a déjà perdu la guerre. On travaille, mais c'est aujourd'hui d'autres méthodes qui se mettent en place, plus que la recherche d'antibiotiques.
Est-ce que les microbes se transmettent que grâce au contact physique ?
Alors, non. Non, non, justement, les microbes, il n'y a pas que les contacts physiques, parce qu'on l'a vu dans le cas, par exemple, de la grippe, ils se transmettent essentiellement par voie aérienne. Donc, c'est soit justement en parlant ou en respirant. Et parce que le virus de la grippe, il peut se retrouver dans ce qu'on appelle les gouttelettes de pluie. Donc, c'est les micro-gouttelettes de salive que l'on émet lorsque l'on parle et qui vont pouvoir voyager et survivre un temps assez limité, mais suffisamment longtemps pour pouvoir infecter une nouvelle personne. Donc non, il n'y a pas que le contact.
Tout à l'heure, il disait que les pathogènes animaux... Que je me souvienne bien. Il disait que les... que le réchauffement climatique augmente le risque d'avoir des nouveaux pathogènes. Pourquoi ?
Alors, je ne pense pas avoir dit que le réchauffement climatique augmentait l'émergence de nouveaux pathogènes. Néanmoins, en fait, il peut avoir pour conséquence indirecte cette émergence. Alors, pourquoi ? Parce qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir la migration de plusieurs populations. Que ce soit animal ou même les populations humaines. Avec le réchauffement climatique, on a malheureusement souvent tendance à ce qu'on aille aussi... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'une manière générale, si on prend l'exemple de la déforestation, aujourd'hui, on sait que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut justement arrêter la déforestation et avoir un peu plus de forêt. Donc ça, c'est le genre de choses qui pourraient limiter aussi l'émergence de nouveaux pathogènes.
Et ce sera la dernière question.
Oui, je reviens effectivement sur la grippe aviaire parce que c'est un sujet régional particulièrement important, puisque l'année dernière, il y a quand même eu 14 millions de volailles déliminées dans la région, et que depuis, on va dire, 20 ou 30 ans, il n'y avait pratiquement plus de grippe aviaire. Je voulais savoir ce que vous pensez de la demande des éleveurs, qui devient pressante, de faire vacciner les volailles contre la grippe aviaire, sachant que le vaccin est encore un petit peu, je crois, expérimental, mais que surtout, il n'empêcherait pas, comme le vaccin coronavirus, la diffusion du virus, dont on rappelle que c'est une aussi zoonose.
Bien déjà, merci, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un vaccin expérimental pour la grippe aviaire. Je me doutais qu'il n'y avait pas de vaccin, mais s'il y en a déjà au moins un au niveau expérimental, pourquoi pas. Que dire sur ce sujet ? Tu veux dire quelque chose ? Je vais laisser la parole à mon collègue virologue.
Mais il va juste falloir faire assez vite.
Je vais juste répondre vite fait. Alors oui, le vaccin, l'Europe est en train d'essayer de le valider. Le problème, c'est que justement, si on laisse circuler dans les populations animales vaccinées, on risque de le passer à l'homme. Donc ça, ensuite, il faudra préparer ça. Donc c'est un peu la difficulté. Mais vu l'expansion et la récurrence, l'Europe y travaille. Ça devrait être fait normalement la prochaine année.
Très bien. Eh bien. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces échanges très, très enrichissants. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur les microbes, il y a encore deux autres conférences qui sont prévues pour demain et après-demain. Et il y a aussi le stand sur les microbes qui nous veulent du bien.